Les haut-parleurs, l'émission qui parle fort.
Dans notre ville,
de la rencontre,
de l'écoute,
de la découverte,
de l'échange,
de la diversité,
de l'humour,
de la simplicité,
de la bonne humeur,
de la curiosité.
Passez un bon moment.
Brian, Maël, notre invité, Olivier.
C'est
Olivier.
Ça.
Alors, est-ce que vous pouvez nous situer à l'endroit où nous sommes ici, aujourd'hui? Tout le monde est sur le même plateau. Expliquez-nous.
Alors, on est tous sur le même plateau, qu'on soit employeur, intervenants sociaux, professionnels de l'insertion, personnes concernées, ici au Noud. Passer la journée ensemble sur le thème de l'insertion professionnelle des personnes qui vivent avec un trouble ou un handicap. Et l'idée était bien de pouvoir se rencontrer et de pouvoir se regarder dans les yeux. C'est un peu le principe du dispositif dating. Et de se regarder, de se reconnaître et de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ferait pas un bout de chemin ensemble? Le principe étant que chacun vienne se présenter en quelques mots pour donner envie d'aller un peu plus loin.
Alors, vous allez vous présenter peut-être.
Ah ben merci, moi je suis Olivier Ville, je suis travailleur social et je suis aujourd'hui directeur du dispositif Un chez soi d'abord. C'est un groupement de coopération médico-sociale qui accompagne des personnes qui sont à la rue, en situation de handicap psychique et qui n'ont pas de solution ou d'accès prévu ou d'accès durable au logement. Et le principe pour nous, c'est de les accompagner vers un logement qui sera la première étape pour se dire, bah tiens, maintenant que je suis logé, qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Et ça peut être un accès aux soins, ça peut être une orientation vers l'emploi, ça peut être reprendre contact avec la famille, ça peut être accueillir son fils à la maison qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En tout cas, tous ces actes et ces gestes de la vie quotidienne qui peuvent peut-être pour des personnes plus ordinaires paraître plus faciles d'accès, mais qui, quand on vit avec un trouble, et en l'occurrence quand on sort de la rue, en plus, rendent les choses beaucoup plus complexes.
L'objet de cette journée, parce que c'est peut-être une première, en tout cas vous allez nous l'expliquer, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi, vous et d'autres collaborateurs qui ont organisé la journée d'aujourd'hui, à réunir toutes ces personnes complètement différentes l'une de l'autre?
Alors, quand Marina nous a sollicité il y a 2 ans autour de cette thématique, en fait on s'est rencontrés, je pense, tout simplement autour de cette thématique, et que c'est quelque chose qui a un peu fait vibrer nos tripes, et on a partagé cette vibration avec un tas de gens, de personnes qui ont rejoint le groupe. Et finalement, le fait de se sentir vibrer autour de cette même thématique nous a permis de vibrer un peu plus loin ensemble et de loin en loin, finalement, de pouvoir aller rencontrer des gens qui étaient sensibles au sujet et de pouvoir les associer à notre réflexion, à notre besoin de se rencontrer, à notre besoin d'aller plus loin. Et alors, des entrepreneurs, des associations, des personnes concernées, et ensemble, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose? Et ce quelque chose, c'est ce qui se passe aujourd'hui, de pouvoir se donner les moyens de se rencontrer sur la base de quelque chose simple. T'es qui? Tu fais quoi? Ah, et toi, t'es qui? T'as besoin de quoi? Est-ce qu'on ne ferait pas un bout de chemin ensemble?
Alors, moi, j'avais une question. D'où est venue l'idée de le faire en mode speed dating? Parce que c'est original comme approche, je trouve.
Écoute, c'est sorti de ma tête. Des fois, je dis des trucs bizarres et là, ça, c'est tombé juste, en fait. Je me suis dit que pour les personnes qui sont en situation de difficulté d'accès à un emploi, il fallait pouvoir les aider, en tout cas, leur permettre d'avoir un rendez-vous. Et leur permettre d'avoir un rendez-vous, c'était pouvoir avoir devant eux un panel de gens, d'un champ d'action, un panel d'intervenants, un panel d'interlocuteurs qui soit facile d'accès. Le premier constat qu'on a fait, c'était de se dire l'insertion, le champ de l'insertion professionnelle, c'est quand même un millefeuille très complexe, ultra lourd, où tout le monde ne peut pas aller partout. Et il fallait au moins une boussole, une carte. Et là, on s'est dit, si on fait nous une carte, peut-être que ce sera plus simple. Donc on a invité les gens à venir sur cette carte là qui est derrière nous, identifié par pôle et où tu vas pouvoir avoir des actions d'insertion, tu vas pouvoir avoir le champ de l'insertion professionnelle. Il y a un employeur qui est là, il y en a plusieurs. Et le fait d'aller rencontrer les gens en direct, en plus tout le monde est volontaire, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de préjugés sur la capacité à m'accueillir, il n'y a pas de préjugés sur la capacité à être accueilli. Et du coup, ça simplifie un petit peu les rapports. Donc, dans cette volonté de quelque chose d'assez horizontal, on s'est dit, ben, le speed dating, en fait, c'est un modèle qui peut coller. Et dans mon rêve un peu fou, c'était ça, c'était permettre aux gens de se rencontrer en se regardant dans les yeux et de repartir de ces 7 minutes avec un rendez-vous, avec un rencard. Voilà.
Alors, c'est une première expérience, on pourra savoir ce soir ce que ça a pu donner.
Alors, oui, très honnêtement, j'avais cette question ce matin en regardant le petit feuillet sur lequel les gens vont pouvoir mettre un peu leur avis sur la journée. Et je me dis, mince, on a peut-être oublié un truc, c'est « Et aujourd'hui, je repars avec combien de rendez-vous ?» Donc peut-être qu'on fera l'annonce tout à l'heure pour demander aux gens de préciser sur cette petite évaluation ce avec quoi ils repartent.
Vous étiez sur la question du logement, puisque vous êtes sur un chez-soi d'abord, c'était une priorité. Maintenant, on est sur l'emploi, donc un cran au-dessus.
Oui.
L'emploi, on en est où aujourd'hui pour, de manière globale, hein, ce que vous en savez dans votre pratique ?
C'est un peu ce que disait le représentant de la GFIP ce matin, Work in Progress. On a tous envie d'avoir du boulot, on a, je pense, tous envie d'avoir un métier dans lequel on se sent bien. Et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est comment je suis bien dans mon travail et comment mon employeur y est bien avec le service que je rends aux personnes qui sont concernées. C'est de cette manière-là que moi je vois les choses, c'est-à-dire que je suis responsable d'un service, je suis responsable d'équipe, mais les équipes sont elles-mêmes responsables du service qu'elles rendent aux personnes. Et au plus on est cohérent sur les besoins à combler, au plus on est proche des personnes, au plus on sera cohérent là-dessus. Et il me semble qu'aujourd'hui, la question de l'emploi... Il n'y a que 10% des gens, de la population salariée qui relève d'un handicap et qui va au travail avec son handicap. Donc là, je pense qu'on a une grande marge de manœuvre. Et pour autant, le nombre de personnes qui vivent avec un trouble ou un handicap physique, visible ou non visible, le nombre est, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il est important. Ceci dit, c'est quand même des gens qui ont... beaucoup, comme pour tout le monde, un peu d'or au bout des doigts. Et pourquoi est-ce qu'on partagerait pas cette richesse ?
Alors, juste, c'est peut-être une remarque. On sait que dans les ESAT, il y a une attente importante. Comment on fait pour réduire ce temps d'attente ? On est pour l'emploi. Pourtant, il y a des personnes qui sont là en attente, des personnes concernées qui sont là en attente de travailler. Et on leur dit, dans 2 ans, en 3 ans, voire peut-être un peu plus. Comment on fait ?
Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que faut pas promettre aux gens et les faire rêver de partir travailler en ESAT. Je pense que l'ESAT, c'est aujourd'hui un dispositif qui est adapté à une certaine typologie de personnes ou à un certain type de handicap. Pour autant, c'est pas parce que j'ai un handicap que je suis fléché sur l'ESAT. Je peux vivre avec un handicap et être fléché sur un emploi ordinaire. Donc c'est comment... On fait le plaidoyer de l'emploi ordinaire auprès des personnes qui vivent avec un trouble pour qu'elles se rendent compte que, ou un handicap, pardon, mais pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont en capacité d'aller donner un coup de main à une équipe, à un service, une entreprise du milieu ordinaire. Et l'ESAT, ce n'est qu'une réponse partielle. C'est comme la structure d'hébergement qui n'est qu'une réponse partielle et ponctuelle avant d'accéder à un logement. Le logement est un droit. Mais pour l'emploi, je pense que c'est exactement la même chose. Il se trouve qu'on a, cet été, on a ouvert un service en coopération avec donc le groupement de coopération médico-sociale chez Soi d'abord et le secteur de santé mentale de l'EPSM Lille Métropole 59G21. On a ouvert un dispositif qui s'appelle l'emploi d'abord, avec une méthodologie d'accompagnement qui s'appelle IPS, Individual Placement and Support, qui permet en fait à des personnes en situation de handicap d'être accompagnées vers l'emploi et aux employeurs d'être accompagnés en amont, pendant la mise à l'emploi et après la mise à l'emploi. Donc en fait, c'est comment des équipes vont se structurer, s'organiser. Il y a des modèles qui existent, et il y en a un qui existe et qui fonctionne très très bien. Il a trouvé ses origines à Marseille après une un modèle américain, mais qui s'est structuré. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. C'est 60% de retour à l'emploi. Quand on dit ça à un employeur, que ce dispositif permet 60% de retour à l'emploi, 40% de maintien, en fait, on n'a pas à rougir.
C'est ça, c'est en fait trouver la structure qui est assez solide pour pouvoir articuler avec les entreprises. Parce que les entreprises sont là, elles sont peut-être en attente ou elles sont frileuses. Et là, vous êtes pour accompagner et rassurer aussi l'employeur.
Exactement, c'est le rassurer, l'accompagner, le rassurer sur le fait que accueillir un handicap, c'est pas accueillir un handicap en fait, c'est accueillir une personne qui va gérer elle-même son propre trouble. Et le coach, en l'occurrence le job coach qui accompagne la personne, va pouvoir l'accompagner dans qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise, dans cet environnement avec mon trouble. Éventuellement, il sera peut-être question à un moment d'informer les équipes, d'informer l'employeur sur l'aménagement nécessaire et de le travailler ensemble et de pouvoir solliciter peut-être une aide de la GFIP ou une aide Cap Emploi pour bénéficier d'une aide à l'aménagement. Donc c'est vraiment un accompagnement qui se veut à double entrée, à la fois pour la personne, mais surtout à destination de l'entreprise. Ce qui finalement aujourd'hui, c'est chaque entreprise doit se débrouiller et peut se retrouver un peu seule, un peu limitée et se dire bon bah finalement je le fais pas et je préfère payer l'amende. Alors c'est une solution. L'amende, elle permet de financer autre chose, mais je pense qu'à terme, c'est quand même se priver de compétences, c'est se priver d'autres ouvertures. Le fait d'avoir une personne qui se dit, moi, 35 heures, c'est trop. Par contre, bosser 10 heures par semaine, ça me convient. Peut-être que pour 10 heures par semaine, dans cette entreprise, il va y avoir une niche de carton qu'il faut déplacer d'un endroit à un autre, d'un tracteur qu'il faut bouger tous les jours, tous les soirs, d'une benne qu'il faut ranger. Et en fait, ça prend 10 heures par semaine. Et plutôt que de faire des heures en plus à quelqu'un, c'est un emploi qu'on va créer juste pour 10 heures.
Oui, effectivement.
Je me permets, mais oui. Du coup, le volet vertueux de cette logique va permettre à une personne de revivre, d'avoir une activité, de se sentir utile, d'avoir une place dans la société, une reconnaissance sociale.
Alors, on est déjà dans un cran au-dessus de l'inclusion, je pense. On est vraiment dans, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer comme terme au-dessus de l'inclusion. Je pense que dans la citoyenneté.
On est dans l'insertion et on est dans de la citoyenneté. Oui, bien sûr.
Que l'inclusion, on l'a tellement entendu que les choses, ça fait des années qu'on en parle. Et enfin, là, ce que vous nous dites, visiblement, c'est très concret, c'est très structuré et c'est novateur, justement. L'expérience américaine, notamment à Marseille. Je ne sais pas si on a une expérience similaire ici dans le Nord.
Cette expérience, elle est arrivée cet été avec la création de ce dispositif qui s'appelle l'Emploi d'abord, qui est coporté par le groupement de coopération et puis le secteur de santé 59G21. L'expérience qui a été menée depuis une dizaine d'années à Marseille nous a largement inspirés. Ils sont partenaires évidemment de notre développement et de nos formations. Et aujourd'hui, on se met en route. Notre objectif, c'est d'avoir une dizaine de personnes là d'ici la fin de l'année accompagnées. Toutes ne seront pas en emploi évidemment, mais elles seront accompagnées. Les contacts avec les entreprises sont faits. On a des entreprises qui sont prêtes à s'engager. On en a qui sont présentes aujourd'hui et qui sont venus en disant nous on est super intéressés, on a 10 postes aujourd'hui.
On n'arrive pas
à recruter. Et je trouve que c'est finalement cette logique d'accompagnement à double entrée des personnes qui sont en situation et qui recherchent un emploi et des entreprises qui est le levier.
Merci Olivier pour ce témoignage qui est très encourageant en tout cas. Pour les personnes concernées et d'autres, bien sûr. Et on se donne rendez-vous peut-être tout à l'heure dans ce plateau à l'horizontale.
À tout à l'heure.
Merci.
À tout à l'heure.
Haut-parleurs, l'émission qui parle fort.